C'est Sion, c'est la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 4 juillet 2002 à Saint-Judard. Deuxième conférence.
Vous avez dit que l'amour d'amitié exige une réciprocité. En quel sens peut-on parler d'un amour entre la mère et son petit enfant, si celui-ci n'est pas encore une personne au sens parfait, au sens complet? Oui, il y a un amour maternel entre la mère et l'enfant. Alors, si, au point de vue purement humain, sans parler du point de vue surnaturel, c'est un amour véritable, l'amour de la mère pour son enfant. C'est un amour plein de miséricorde. Alors, voyez, je parle au plan philosophique. Alors, au plan philosophique, j'insiste sur cette réciprocité. Et voyez tout de suite, la miséricorde s'est développée en terre chrétienne et elle atteint aujourd'hui, avec Sainte Faustine, à faire qu'il y a un dimanche de la miséricorde du Christ. C'est beau. Ça s'est développé. Et la note spéciale de l'Église aujourd'hui, c'est la miséricorde. L'Église, du moins les hommes d'Église qui insistent énormément sur la justice, ils sont en retard par rapport au Saint-Esprit. Comprenez bien ça. Ils ne sont pas en retard par rapport au monde, parce que le monde aujourd'hui cherche la justice, soi-disant. Il ne connaît que très peu de choses, alors on fait une justice au niveau de ceux qui se manifestent, en considérant que la justice, c'est ce qu'il y a de plus grand. Non, ce qu'il y a de plus grand au point de vue humain, c'est la miséricorde. Mais la miséricorde, c'est un amour à l'égard de la misère des hommes. Le petit enfant, il n'est pas miséricorde. L'amour de la mère pour le petit enfant, ce n'est pas uniquement de la miséricorde. Parce que le petit enfant, c'est une promesse. Dans un enfant, tout est promesse. Alors, un amour d'une promesse, c'est un amour conquérant. Un amour miséricordieux. Regarde la misère de quelqu'un. La misère de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a échoué. La misère de quelqu'un, les conséquences du péché originel, les maladies qui arrêtent le progrès et qui fait qu'on est du côté de la descente. Être du côté de la descente quand on est vieux, c'est normal, c'est naturel, c'est pas misérable. Tandis qu'être du côté de la descente quand on est jeune, quand on demanderait de croître et d'être arrêté, c'est une misère. C'est la plus grande des misères, ça. Parce que c'est intérieur, où l'on sait qu'il y a une décroissance, alors qu'il devrait y avoir une croissance. Je crois que c'est le plus grand mal, ça. Et être attentif à cette misère, c'est grand. C'est l'amour qu'on a pour les êtres humains, qu'on aime pour l'autre. On aime quelqu'un qui t'a infligé ça. Et on doit l'aimer. C'est très grand. La miséricorde est très grande. Elle aime. Je ne dis pas qu'elle est plus grande que l'amitié. C'est très difficile. C'est deux genres d'amour. Et ça, j'ai très bien souligné cette question-là. Parce que ce matin, je voulais vous développer avant tout la miséricorde, l'amitié. Mais il faut mettre à côté la miséricorde. Compléter tout ce que j'ai dit ce matin par le point de vue de la miséricorde. Chez les Grecs, notre cher Aristote, notre cher Platon, ne parle pas tellement de la miséricorde. Il parle de l'amitié. Ça, c'est grec. La miséricorde est chrétienne. C'est Jésus qui a apporté la miséricorde. Et ça, c'est typiquement chrétien. Alors, voyez, quand l'amour d'amitié se complète d'une miséricorde, c'est très grand. Vis-à-vis de l'ami, c'est pas la miséricorde qui domine, c'est l'amitié. Mais si l'ami tombe malade, si l'ami est blessé, alors la miséricorde dépasse l'amitié. Et on l'aime encore plus que s'il était l'ami. Et ça, c'est humain, mais ça appelle le divin. Ça appelle le chrétien. Il n'y a que chez le chrétien, il n'y a que dans le Christ. Le Christ n'est pas un héros grec. Le Christ n'est pas un sage grec. Il est plus que ça. Il est un homme infiniment miséricordieux. Et son amour d'amitié le conduit à la croix. C'est à la croix qu'on comprend ce qu'est la miséricorde. Je ne dis pas que c'est à la croix qu'on comprend l'amour d'amitié. Non. On comprend l'amour d'amitié dans un choix qui se fait vis-à-vis de l'autre. Tandis qu'à la croix, on comprend ce que c'est que l'amour d'amitié. Et on comprend ce que c'est que la miséricorde. L'ami porte alors la misère de son ami. Et il porte cette misère de son ami pour le délivrer de cette misère. C'est ça la miséricorde. Pour être miséricordieux, il faut savoir s'arrêter à la misère de l'autre. Il faut la voir. C'est pas toujours très drôle. Voir la misère. La misère n'attire pas. Elle ne séduit pas. La misère appelle un amour miséricordieux. C'est un amour d'une noblesse cachée, la miséricorde. Une mère est miséricordieuse, beaucoup plus qu'un père. Il y a des pères miséricordieux, mais ordinairement quand ils deviennent des grands-pères. Je suis à l'âge du grand-père, alors je peux en parler. Et c'est vrai, la miséricorde. Alors le grand-père, il est miséricordieux pour ses petits-enfants. et la miséricorde du grand-père, elle est quelquefois plus profonde que la miséricorde de la grand-mère. Très curieux, ça. La miséricorde pour un homme met longtemps à s'emparer de son cœur et de sa volonté. Un homme est moins immédiatement miséricordieux qu'une mère, qu'une infirmière. Voyez la différence des infirmiers et des infirmières. Ça m'intéressait beaucoup de voir ça, moi. Je ne le disais pas, hein, puisqu'il aurait été tout changé. On voit très bien la différence. Un infirmier de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et une infirmière. La miséricorde fait deviner la misère. Vous voyez, j'ai toujours l'image, parce que c'est une image que j'ai vue. Quand on voit des parents et puis un petit gosse à côté. Et le petit gosse tombe. Il se fait mal à sa jambe. Le père lui tend la main. « Allez, mon vieux, lève-toi !» La mère, elle vient le prendre par en dessous. Et spontanément, ça, c'est... C'est merveilleux, ça. Ça, c'est la miséricorde. Le père dit ça, il doit le faire. Il faut que le père ait un peu de virilité. On n'aurait que de la miséricorde autour de nous. On n'aurait que de la miséricorde autour de nous. On resterait assis dans un fauteuil et toujours plein de misère. Donc, est-ce qu'on aimerait ça? Et il y aurait quelque chose de viril qui ne se ferait pas. La miséricorde, elle est maternelle. Hein, elle est en Dieu. C'est le côté maternel de Dieu, si j'ose dire. Hein. C'est cette miséricorde du Christ. Et elle se manifeste autour du Christ et autour de Marie. Et quand on est très fragile, très faible, on n'ose même plus regarder Jésus. On est près de Marie, la mère de toute miséricorde. On est très fort, oui, ce geste du Saint-Père pour béatifier Sainte Faustine et donner liturgiquement un dimanche à la miséricorde. C'est très significatif. C'est que l'Église doit être de plus en plus miséricordieuse. Parce que l'humanité, notre Europe, est fatiguée. Et c'est vrai. Vous avez dit que l'amour d'amitié exige une réciprocité. Voyez, la miséricorde, il n'y a pas de réciprocité. On reçoit tout gratuitement. Et c'est pour ça que, qu'en recevant tout gratuitement, on trouve que c'est très bien quand on est faible. Et il y a des gens qui cherchent la faiblesse, qui ne veulent jamais se guérir pour être toujours enveloppé de miséricorde. Et à ce moment-là, on est obligé d'arrêter cette miséricorde et puis dire, hein, lève-toi. Vous avez dit que l'amour d'amitié exige une réciprocité. C'est vrai. En quel sens peut-on parler d'un amour entre la mer et son petit, si celui-ci n'est pas encore une personne au sens parfait. La miséricorde. La miséricorde, elle est choisie dans un seul sens, celui qui fait miséricorde. Le pauvre reçoit cette miséricorde. Le malade reçoit cette miséricorde. Il en a besoin. Il n'a plus la possibilité de répondre. Il répond en acceptant la miséricorde. Et c'est pas toujours commode d'accepter la miséricorde. Parce que il y a des miséricordes qui vous font sentir que vous êtes vieux, que vous êtes malade, que vous êtes infirme. Et ça, c'est très désagréable. Il faut une miséricorde qui vous relève dans votre dignité. La vraie miséricorde, c'est celle-là. Il y a des miséricordes laïcisées. Hein. Comprenez ce que je veux dire. Hein. Il y a des miséricordes laïcisées qui laïcisent la miséricorde chrétienne. Ces miséricordes-là sont terribles. Parce qu'elles vous font sentir que vous êtes un pauvre type et vous ferez mieux disparaître parce que vous êtes lourd pour la société. Ça, c'est des miséricordes laïcisées. Je crois que la miséricorde ne peut pas se laïciser. Elle doit jaillir d'un cœur qui vraiment aime. La miséricorde, ça vient d'en haut. Vous semblez dire hier que l'intelligence était le sommet de la personne. Non, je n'ai pas dit le sommet. Je crois n'avoir jamais dit le sommet. J'ai dit, c'était ce qui donner cette espèce de rectitude, cette espèce de solidité, cette espèce de pouvoir se tenir droit. Mais c'est ça qui caractérise l'intelligence. Quand il n'y a pas d'intelligence, c'est mou. Tandis que l'intelligence donne cette rectitude. Et quand il n'y a que l'intelligence, il y a uniquement cette rectitude qui est dure. Surtout quand on est à côté de quelqu'un faible. La rectitude de l'intelligence n'est pas toujours commode à porter. Oui, c'est la justice du juge en face du pauvre type qui est condamné. Et cette justice du juge qui juge est lourde à porter pour celui qui est condamné. Si elle n'est pas accompagnée de miséricorde. Vous sembliez dire hier que l'intelligence était le sommet de la personne. Aujourd'hui, vous avez montré que la volonté allait plus loin. Comment concilier ces deux affirmations? C'est que l'intelligence a besoin d'être complétée de l'amour. L'amour sans intelligence ne demeure pas. C'est mou. Et alors on appellera ça des fusions. On ne respecte plus l'autre. Et l'amour devient pesant. Alors que l'amour doit toujours alléger et nous élever. Mais l'amour nous élève et nous appelle grâce à l'intelligence. Vous voyez, il y a des complicités merveilleuses entre intelligence et amour. C'est peut-être les plus merveilleuses complicités. L'intelligence a besoin de l'amour, et l'amour a besoin de l'intelligence. La pure intelligence implacable. Trop dur. la jeunesse peut avoir une intelligence implacable. Et puis, progressivement, l'amour vient. Et c'est vrai, l'amour assouplit ce qui est implacable dans la rigidité. Mais l'amour tout seul, ça ne tient pas la route. Ça vient très vite trempant. Et gluant quelquefois. Et c'est pas agréable. L'amour a besoin de l'intelligence pour donner à l'intelligence toute sa dignité, toute sa force. Alors, vous voyez, ils sont complices l'un de l'autre. En vue de la contemplation. La contemplation est de l'ordre de la sagesse. La sagesse, comme saint Thomas définit la sagesse, habitus contemplativus. C'est très beau. Habitus contemplativus. Habitus, c'est-à-dire la sagesse nous donne cette capacité de contempler. Le sage contemple. Et la contemplation, c'est l'union de l'intelligence et de l'amour. Parce que par l'amour, on va plus loin. Et par l'intelligence, on rend cet amour lumineux. On pourrait dire que la sagesse, c'est une lumière dans l'amour. Vous savez, une petite image de ça. La lumière dans le brouillard, c'est très cru. Hein. Vous savez, les phares qui éclairent quand il y a un très grand brouillard. La lumière dans le brouillard. L'amour n'est pas lumineux par lui-même. Mais l'amour, le véritable amour, réclame la lumière. Et l'amour véritable réclame la lumière. L'amour n'aime pas de rester rampant. N'aime pas l'obscurité. On veut que ce soit lumineux. Et la lumière dans l'amour, c'est très beau, c'est très grand. Et c'est là où on a le sommet, la sagesse. Cette habitude contemplative de regarder tout par le sommet, de ne pas regarder tout par la blessure, par les ratés, par le mal, regarder tout par la fin, la finalité qui éveille en nous l'amour et qui demande à l'intelligence de venir donner à l'amour son caractère tout à fait propre d'être lumineux. Alors vous sembliez dire que l'intelligence était le sommet de la personne, c'est la sagesse, c'est l'union de l'intelligence et de l'amour. Et ça se porte sur la personne. Et ça fait découvrir la personne dans ce qu'elle a de tout à fait grand. La personne de l'ami, la personne du Christ, la personne du Père. aujourd'hui, vous avez montré que la volonté allait plus loin. Bon, je concilie les deux en montrant tout simplement que l'un et l'autre ne sont pas des choses à prendre dialectiquement en opposition, mais les prendre au contraire dans leur union. Aujourd'hui, très facilement, on met en dialectique d'opposition intelligence et amour. On dira, ah, vous avez un tempérament intellectuel. Ah, vous avez un tempérament affectif. C'est sûr, au point de vue des tempéraments, au point de vue psychologique, nous avons tous, chacun d'entre nous, selon notre éducation et les grâces de Dieu, un tempérament plus intellectuel, un tempérament plus affectif. Et quelquefois, les deux sont liés. Et ça, alors, on est très heureux. Mais c'est vrai, constamment, vous avez le tempérament matheux, intellectuel, terriblement intellectuel. Vous n'allez pas dire qu'un matheux est l'exemple d'un affectif. Un matheux qui est peut-être matheux, et on le voit bien aux examens, ah, il aime de coller. Il aime de faire tomber quelqu'un. Un bon coup de poing. L'amour d'un bon coup de poing, c'est qu'il dégringole, il disparaît. Il y a des questions qu'on peut poser, alors on voit l'adversaire dégringoler. C'est un petit peu du sadisme. Hein. Mais le sadisme, c'est la grimace de la sagesse. Les gens qui tendent vers la sagesse et qui s'y arrivent pas deviennent sadiques. Le bien attire, oui. Peut-on dire que le bien de l'intelligence attire ? C'est-à-dire que la vertu, que la vérité attire mon intelligence. Une réalité bien faite attire. Un bel homme attire. Une belle jeune fille. Vous voyez, c'est très curieux. Beaucoup moins le vieillard, parce que c'est le désir. Le désir, parce que sur terre, seul le Christ était parfait. Il attirait les pauvres. Il a suscité la jalousie. Au fond, la perfection n'est pas ce monde. La perfection dans ce monde, elle est surtout dans l'espérance, le désir. C'est pour ça que on dira, et c'est Sainte Catherine qui dit ça, et Sainte Catherine, elle est mue par l'esprit. Sainte Catherine dit ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de l'homme, c'est le désir. Et aujourd'hui, on peut dire, quand on dit le désir du cœur de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus grand. Le bien attire. Peut-on dire que le bien est de l'intelligence ? C'est la vérité, c'est sûr. que la vérité attire l'intelligence. Je cherche la vérité. Et je n'y aboutis jamais totalement. La vérité me dépasse. Elle est dans la réalité. Et elle est dans mon cœur, dans mon intelligence. Vous savez la définition de la vérité de saint Thomas ? Adéquatio intellectus ad rem. Je traduis. La vérité, c'est l'union parfaite entre l'intelligence qui connaît et la réalité. Adéquatio. Donc, c'est l'intelligence mesurée par le réel. C'est pas l'intelligence qui se mesure elle-même. Toujours ce défaut de repliement. L'intelligence qui se replie sur elle-même, elle ne va pas très loin. On reste dans l'horizon. Il n'y a pas de foule-camp. Tandis que la vérité, c'est l'intelligence qui est adéquate, conforme à la réalité. Je suis vrai dans mon amour d'amitié quand je cherche à saisir l'autre tel qu'il est. Quand je cherche à saisir l'amitié de mon ami en raison de la conformité vis-à-vis de moi, je ne suis pas dans la vérité. Et je ne vais pas loin. Je me retrouve dans l'autre. Se retrouver dans l'autre, oui, c'est très bien. C'est agréable. C'est dulce vita. C'est la douce vie de se retrouver dans l'autre. Mais ce qui m'intéresse dans l'autre, c'est qu'il n'est pas moi. Or, quand je me retrouve dans l'autre, je ne connais l'autre qu'en fonction de moi. Je dois pouvoir l'aimer, donc accepter qu'il m'attire, qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Et c'est pour ça qu'il me séduit et m'attire. Et c'est ce quelque chose que l'autre a et que je n'ai pas, que je connais et que j'affirme. C'est ça la vérité. La vérité, c'est je tends vers la vérité, je ne la possède pas. C'est la vérité qui me possède, mon intelligence. Ah. Ceux qui disent qu'ils possèdent la vérité, ils se trompent. En réalité, c'est eux-mêmes qui se regardent. On ne possède jamais la vérité. On tend. On possède des définitions. Mais la vérité n'est pas dans des définitions. Parce que les définitions, c'est propre, bien défini. Genre et différence spécifique. Animal raisonnable, voilà l'homme. Ah oui, animal raisonnable, voilà l'homme. Il y a quelque chose de vrai, quelque chose de juste. Mais ramener l'homme au genre et à la différence spécifique, à la définition, il n'y a rien de plus ennuyeux. J'aime dans l'homme ce qui est en lui d'un petit peu plus que du raisonnable. Son intelligence contemplative qui reflète le haut. Peut-on dire que le bien de l'intelligence attire, c'est-à-dire que la vérité attire mon intelligence, c'est sûr. Quelle est cette attraction et comment diffère-t-elle du bien sur ma volonté? Oui, ça c'est une question très intéressante et très délicate. le bien attire. Et l'amour exprime cette extase. L'amour est extatique. L'amour me fait sortir de moi. Et c'est pour ça que le désir dans l'amour est quelque chose de tellement important, parce que mon amour n'est jamais parfait. Alors par le désir, il sort de lui pour rejoindre l'autre, l'amour, pour le bien. L'intelligence, elle assimile. C'est un mouvement inverse, c'est très curieux. L'amour attire, l'intelligence, elle ramène à nous. Elle assimile tout. Et c'est vrai. Quand nous connaissons quelque chose, nous mettons très vite ce quelque chose en relation déjà avec ce qu'on connaît. Et par là, on le connaît mieux. Mettre en relation, c'est parce que nous possédons. Il y a une tendance à posséder la vérité. Il y a une tendance à posséder l'ami. Alors regardons dans ces deux grimaces de l'amour et de l'intelligence ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. L'intelligence possède l'amour. En vérité, l'intelligence se porte. Elle assimile la vérité en saisissant dans la réalité tout ce qui est assimilable. Mais elle reconnaît qu'il y a dans la réalité existante quelque chose qui dépasse toujours mon intelligence. Autrement dit, la réalité mesure mon intelligence. Donc vous voyez là comment l'intelligence possède l'intelligibilité de la réalité, et qu'en réalité, l'intelligence est possédée par la réalité. Parce que c'est elle qui mesure, ce n'est pas ce que je connais qui mesure la réalité. C'est le grand défaut de notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'en connaissant le monde scientifiquement, on pense le posséder. Et le monde a une richesse bien plus grande que ce que je le connais. Dans l'amour, il y a moins le danger de posséder. Quand on aime vraiment, on ne veut pas posséder l'ami. Mais l'intelligence revient dans l'amour et veut à tout prix posséder. Parce que regarder l'autre, en sachant que l'autre me dépasse, il faut beaucoup d'humilité. Alors que vouloir posséder l'autre me flatte et me rend orgueilleux. C'est très curieux. Et au plus intime de moi-même, j'ai constamment intelligence et amour, intelligence et volonté, constamment. Vous voyez ? Alors, il ne faut surtout pas que ça s'oppose dialectiquement. Il faut au contraire voir que ces deux doivent s'unir en cherchant l'intelligibilité des réalités et en cherchant leur amabilité. L'intelligibilité de la réalité demande qu'on connaisse la réalité. l'amabilité de la réalité demande qu'on se porte vers elle et qu'on se donne à elle. Et le mouvement de la volonté, de l'amour, c'est de se donner. Le mouvement de l'intelligence, au contraire, c'est d'assimiler à nous. Notre monde est plus, il est trop intellectuel et pas assez affectif. Ça, c'est très net. C'est pour ça que des peuples plus primitifs, ça nous repose. Des peuples moins évolués. Et quand on veut trop vite les mettre au rang d'un peuple cultivé, on les détraque. C'est vrai que notre Europe est très cultivée. Elle est peut-être trop intellectuelle. Et plus assez affective. Plus assez aimante. Notre éducation européenne est peut-être trop intellectuelle de gaver l'enfant par des examens constants et des examens qui vont très loin. Il faut passer normal. Alors, j'avais quelqu'un qui me disait normal. C'est l'examen suprême, l'examen le plus difficile. Alors, c'est l'examen le plus difficile, et puis quand on l'a passé, on n'en sort jamais. Le danger est tellement difficile qu'on met tout son effort et on ne voit plus autre chose. L'intellectuel gavé ne voit plus que ce qu'il comprend et ne cherche jamais plus la vie de l'autre. C'est agaçant, ça. Et c'est tout. Et c'est tout à sa manière. C'est pas tout en réalité. Et c'est tout à sa manière. Et le type de l'Européen, ça devient ça. C'est sûr, c'est ce qu'on voit, ce qu'on constate. Je ne fais pas de critique, c'est un fait. Et tous, nous avons ce danger, puisque nous vivons en Europe. Et qu'on connaît ce danger, on essaie de le dépasser. Et dépasser ce danger, c'est mettre un poids d'amour plus grand. Est-ce que le fait d'aimer change mon être, ou bien cela accuse-t-il mon être, actue mon être? Ah, oui, ça c'est de la métaphysique. Hein. Le fait d'aimer finalise mon être. Voilà ce que je dois dire en métaphysique. Finalise mon être. Mon être est fait pour aimer. C'est pas extrinsèque à l'être. Hein. Parce que l'être parfait, c'est l'esprit. Et l'esprit est fait pour aimer. Ça le finalise. Quand on n'aime pas, on n'est pas finalisé. Seul l'amour finalise. C'est toujours l'amour qui a le dernier mot. L'intelligence devient nécessaire pour aimer, mais elle ne finalise pas. Elle me donne une supériorité sur les autres. Je risque que d'être ce que les stoïciens appelaient le philosophe « nati sunt ut exemplar ». Ils sont nés pour être des exemplaires. Or, une intelligence bien faite risque toujours de s'imposer comme exemplaire. Et c'est vrai. Je dis bien la chose. Faites comme moi. Tandis que la finalité, c'est le dépassement. On aime d'aller plus loin. On aime de sortir de soi. Donc le fait d'aimer change mon être et le finalise. Et en le finalisant, il l'actue. Dans toutes ses virtualités. Donc, un être bien finalisé et parfaitement actué. Que veut dire aimer l'autre pour lui-même ? Est-ce un désintéressement, un détachement, une indifférence à notre bien propre ? C'est l'aimer pour lui. Et non pas pour moi. C'est l'aimer pour lui, pour ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est l'aimer pour qu'il grandisse parfaitement, pour qu'il soit parfaitement actué. Et ça, l'aimer pour lui-même. C'est l'aimer pour qu'il soit à lui-même une fin. Et que tout s'actue en lui. Donc, est-ce un désintéressement ? C'est juste l'inverse. Un détachement ? Non. Une indifférence ? Non. C'est l'aimer pour lui et pour moi. Parce qu'il sera plus lui-même et je l'aimerai plus. Pourquoi la personne ne nous telle pas dans le choix l'ami de l'ami, dans le choix de l'ami. La personne se doute-t-elle dans le choix de l'ami ? Oui. C'est vrai. Dans le choix de l'ami. La personne se noue. Et c'est très important. Mais elle ne se noue pas en disant que l'ami est nécessairement ma fin. Elle se noue momentanément pour aller plus loin. Et la personne, en définitive, se noue en contemplant Dieu. Elle ne se noue pas à l'égard d'une autre personne, à l'égard de l'ami. Elle se noue partiellement. Elle se noue vraiment, mais partiellement. Elle doit aller plus loin. Comment éduquer la passion ? Ça, c'est un sujet. On pourrait traiter ça dans toute une session, autrement éduquer la passion. La passion demande d'être éduquée. Il faut d'abord comprendre ça. Parce que la passion, c'est un amour lié au sensible. Je suis passionné pour les petits gâteaux. C'est une passion qui peut exister, pas trop dangereuse, parce que ça se corrige. On en mange beaucoup quand on est gosse, puis on a mal à l'estomac. Alors ça, c'est la correction. La première correction de la passion, c'est l'estomac. Je suis malade. Maman, je suis malade. J'ai trop mangé. C'est trop bon. La passion se corrige. Quelquefois, des fois, plus difficilement, j'ai une passion folle pour l'alcool. Quelqu'un qui était passionné d'alcool, il m'a fait toutes ses confidences. Ça m'a intéressé beaucoup pour comprendre comment la passion d'alcool, c'était pendant la guerre du reste. C'était quelqu'un de très bien. Cet homme avait une pharmacie qui était la première pharmacie. Toutes les autres étaient bouclées. Elle était à seule ouverte. Donc il travaillait toute la journée et même la nuit. Il était éreinté. Et alors il avait de l'alcool qui n'était pas bonne du tout comme alcool. Mais il en prenait. Il est devenu alcoolique comme ça. Pour pouvoir servir les autres. Il était devenu vraiment alcoolique. Et il voulait s'en séparer. Parce qu'il ne pouvait pas circuler sans alcool. Alors il tombait. Il avait vu que c'était un esclavage. Oui, dès qu'on comprend que la passion devient un esclavage, on veut s'en corriger. Parce qu'on aime son indépendance. Et la passion nous rend esclaves. Ça, toutes les passions, n'importe lesquelles, on est esclave. Je ne veux pas étudier toutes les passions affectives du concupiscible, de la concupiscence. Il y a les passions de l'irascible aussi. Des gens qui se mettent tout le temps en colère. C'est pas drôle. Parce que quand on est astucieux, on aime de voir les gens en colère. C'est très beau, c'est de très beaux orages. Je me souviendrai toute ma vie. Quand j'étais pensionnaire, chez les pères jésuites, il y en avait un préfet de discipline. Et un beau, on savait qu'il était, on l'appelait choléra. Donc, c'est ça. On s'était dit, le jour où il viendra donner nos notes, on était pensionnaire, on va le mettre en colère. Et on avait très bien joué le jeu. Et alors on l'a vu se mettre en colère. C'était beau. Un orage délicieux. Et il y avait des coups de tonnerre. Et il y avait des éclairs. Vous comprenez ? Venant donner les notes, arrivé comme il était petit. Et les colères des petits, c'est très curieux. Alors, il pénétrait à fond. Dans la grande salle d'études, arrivé au milieu, sifflement du fond, il se retourne violemment en regardant, sifflement de l'avant. Alors il s'est retourné, bon, dit voilà, sifflement du milieu. Alors, il ne savait plus quoi faire. Alors il a vite monté tout en haut en regardant tout le monde. À ce moment-là, grand silence. Il n'y avait que lui qui était en colère. Alors quand il y a un grand silence et qu'on est en colère, ça double la colère. Les passions, la colère, le concupiscible. La colère est une passion noble. Les intellectuels se mettent facilement en colère. C'est une passion noble. C'est la passion de l'intelligence. Le concupiscible, c'est la passion de la passion. C'est de l'amour. Le concupiscible, c'est d'aimer trop son corps, sa sensibilité, toutes ses émotions. C'est ça, le concupiscible. Alors, comment dépasser tout ça par l'intelligence? Rappeler ce pourquoi on est fait. Sûrement que l'amitié est un moyen très grand pour corriger les passions. Et je crois que même certaines passions ne peuvent être corrigées que par l'amitié. Je crois dans le monde d'aujourd'hui, où on n'aime plus la morale, on n'aime plus les vertus, il faut bien dire ça. Il faudrait corriger les passions par l'amitié. Ce serait très important, ça. Par l'amitié, on réintroduit l'intelligence à travers les passions. Et c'est le grand art pour éduquer. Parce que l'éducation, c'est réintroduire l'intelligence dans les passions. Peut-on aimer Dieu passionnément? Dieu n'est pas sensible, cependant. Le philosophe découvre Dieu comme une personne. On verra ça ce soir. Puisque c'est justement la théologie qui vient compléter cet amour, du moins réfléchir sur cet amour divin.